Sur Radio G101.5 FM. On se retrouve dans Génération. J'espère que vous allez bien. On attend tous avec impatience la fin du confinement, l'ouverture des musées, des librairies, du cinéma, des restaurants et bien sûr des bars. Génération, c'est une émission dédiée à la formation, l'emploi et la mobilité des jeunes de 16 à 25 ans. Et aujourd'hui, on reçoit Damien, Clémentine, Joël et Adélie qui sont en service civique Famille en Harmonie à l'association Unicité. Nous recevons également Madame Cotte-Rivry qui est psychologue et coordinatrice jeune consommation à l'association libérienne d'addictologie. Et pour la dernière rubrique, une interview de Marie Rodriguez qui nous parlera de la mission locale Angevine. Nous recevons aujourd'hui 4 jeunes qui sont actuellement en service civique chez Unicité. Pour rappel, Unicité est une association qui propose aux jeunes de 16 à 25 ans des missions de service civique. Bonjour Damien.
Bonjour.
Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Bonjour Joël.
Bonjour.
Bonjour Adélie.
Bonjour.
On est très heureux de vous recevoir sur Radio G. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter chacun à votre tour vos missions de service civique ?
Bien sûr, moi c'est Joël. J'ai choisi de faire un service civique pour me réorienter professionnellement suite au parcours que j'ai eu jusque-là. Et je suis dans une mission qui s'appelle Famille en Harmonie, qui consiste justement à accompagner les personnes en situation de handicap à domicile ou bien dans des associations pour leur apporter justement un peu de bonheur en proposant diverses animations et passer du bon temps avec elles, essayer de créer des souvenirs, des liens qui pourront nous rapprocher durant la durée de notre mission.
Moi du coup c'est Adélie, service civique parce que je cherche ma voie professionnelle et j'ai besoin d'être utile aux autres, donc de cette mission là je fais aussi partie de la mission Famille en Harmonie. Et du coup, elle me plaît vraiment et je pense que ça pourra m'aider à trouver ma voie professionnelle plus tard.
Moi, c'est Clémentine. Je fais un service civique pour me faire un petit peu d'expérience au niveau professionnel et pour donner de mon temps. Et je suis aussi en Famille en Harmonie, comme Adélie et Joël.
Voilà, moi, c'est Damien. Je suis aussi en Famille en Harmonie. Du coup, j'ai choisi de faire un service civique parce que j'avais du temps à donner et parce que du coup... J'ai besoin aussi de savoir ce que je veux faire plus tard dans ma vie comme métier. Donc voilà.
Des missions très intéressantes. Et depuis quand vous avez commencé ces missions en service civique ?
Depuis le 12 octobre.
D'accord, donc c'est très récent.
On a fait pas mal de formations avant et réellement, pour aller voir nos bénéficiaires, on a commencé début novembre, ouais, c'est ça.
Quels sont vos ressentis depuis le départ de vos missions ?
Moi personnellement, je m'éclate. J'adore ce que je fais. Et je trouve que ça apporte vachement d'expérience. Enfin, je pense que ça va apporter vachement d'expérience et c'est très intéressant.
Bon, je trouve qu'au-delà de ça, justement, on n'a pas juste la sensation de donner quelque chose à ces personnes-là, on a l'impression aussi de recevoir quelque chose de la part de ces personnes. C'est plus en échange que justement on a donné quelque chose, donné du temps. C'est vraiment un partage de temps qu'on a avec ces personnes-là et c'est vraiment génial. C'est une sensation que je ne connaissais pas personnellement avant et. J'en suis friand.
Ah, pour moi, je trouve ça vraiment top aussi. C'est vraiment de l'échange, quoi. On n'est pas, c'est du partage, c'est donnant donnant. Et puis on voit bien que ça fait plaisir aux personnes chez qui on va. Du coup, ben on a aussi le smile et puis on attend que d'être la semaine prochaine pour les voir, quoi.
Et moi, je suis très contente aussi de voir les gens sourire. C'est un réel bonheur, voilà.
Super. Donc ça vous apporte beaucoup humainement.
Ouais, exactement.
Quels sont les points positifs et les points négatifs, s'il y en a, que vous avez pu observer ?
Moi, je trouve qu'il n'y a que des points positifs. On apprend tous les jours et je trouve ça super parce que j'ai que 18 ans et c'est vrai que l'expérience, bah, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie.
Et oui, il n'y a que des points positifs. C'est, tout est intéressant. On voit comment chacun fonctionne. Les seuls petits points négatifs, peut-être, et je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, c'est plus que des fois, on n'a pas encore tous les bagages pour avancer et on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Mais dans ce cas-là, on essaye de se renseigner autour de nous.
Personnellement, points positifs, beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Enfin, pas de points négatifs pour ma part. Aussi, il faut savoir qu'à Unicité, il y a vraiment ce contact avec les autres jeunes comme nous qui sont en mission de service civique. On apprend aussi, pas seulement des personnes avec qui on... pas seulement de nos bénéficiaires, mais aussi des personnes qui travaillent avec nous. Et il y a tout le temps cet échange et le fait qu'on soit en binôme pour aller voir des bénéficiaires. Ça fait que même s'il y a une des deux personnes qui n'a pas forcément d'idée, il y a l'autre personne qui te complète, qui te permet aussi d'avoir des idées, vous avancez ensemble. Il y a vraiment aussi cet esprit d'entraide qui se crée. Et ça donne encore plus de plus-value à notre mission. Et c'est vraiment génial. C'est que du bonheur.
En positif, c'est vraiment, voilà, on est ensemble, quoi, qu'on n'est pas tout seul en train de faire notre service civique. Donc ça, déjà, c'est un gros point positif. On est tous motivés et puis on apprend tout le temps. Enfin, personnellement, j'ai pas un jour où je me dis je vais faire la même chose que hier, quoi. Puis c'est des profils de personnes complètement différentes, des envies différentes. Du coup, ça stimule aussi un peu l'imagination et je trouve ça bien.
Pareil que des points positifs. On est une grande promo de 25, on s'entend tous très bien. Donc c'est super agréable de travailler tous ensemble toutes les semaines. Voilà.
Et pourquoi avoir choisi Unicité pour effectuer ce service civique ?
Alors moi, pour ma part, c'est pas Unicité que j'ai choisi. C'est que quand je me suis inscrite sur le site du service civique où il y a tous les services civiques réunis, du coup, je suis tombée sur cette mission et je me suis dit pourquoi pas le handicap ? Et après, j'ai vu que du coup, ça correspondait à Unicité. Mais voilà, je trouve que c'est un super organisme.
Pour ma part, justement, Unicité, par rapport aux autres missions que j'ai pu regarder sur le site, c'est qu'il y avait vraiment cet esprit d'entraide et le fait d'être au contact des personnes, et pas seulement des personnes avec qui on allait être, mais aussi des personnes qui sont comme nous en service civique, qu'on était plusieurs. C'est vraiment un travail collectif et c'est ça qui m'a plus attiré en fait dans l'association.
Pour moi, Unicité, parce que c'était vraiment le travail en équipe et j'ai besoin du travail en équipe personnellement, donc... tant mieux qu'il y ait une mission comme ça aussi, il y avait le titre de la mission, bien sûr, il y avait ce qui est proposé aussi Unicité, mais vraiment, ce qui a joué pour moi, c'était le travail d'équipe, quoi.
Personnellement, c'est via le site du service civique et Unicité était la mission qui me correspondait le plus.
Au niveau professionnel, quelles sont les compétences que vous avez pu développer au cours de vos missions de service civique depuis le départ ?
Moi, je trouve qu'on en apprend tous les jours parce qu'on voit tous les jours des personnes différentes à peu près et qui n'ont pas toutes les mêmes réactions. Et oui, c'est vrai qu'on a eu des formations, mais même sur le terrain, on apprend encore plus que les formations. Donc moi, je trouve ça super.
Ouais. Ouais, pour revenir justement sur ce que Adélie est en train de dire, c'est que sur le terrain, il n'y a pas meilleur moyen justement pour apprendre, peu importe la profession qu'on va choisir par après, même si c'est dans ce domaine-là ou c'est dans un autre domaine, c'est forcément des choses qui pourront tôt ou tard nous servir et c'est de l'expérience en plus.
Oui, au niveau compétences, je trouve qu'on en apprend. Déjà, on a eu pas mal de formations avant d'être mis en contact avec les personnes. Et du coup, on a des liens avec des professionnels qui, eux, peuvent vraiment nous aiguiller sur si jamais on a vraiment un problème ou on bug avec une personne, on sait qu'on a du lien autour et ça, c'est top.
Oui, au niveau de l'expérience, via les formations qu'on a fait au début de notre mission et même au jour le jour, pendant les visites, on apprend énormément. Voilà.
Et après cette mission, vous voyez faire quoi en fait ? Plutôt un métier justement dans ce domaine-là ?
Moi, je sais que je travaillerai dans le social. Après, quoi encore ? Je ne sais pas forcément. Donc, c'est vrai que j'en attends beaucoup de mon service civique aussi pour me rediriger vers une formation qui me plaira.
Personnellement, je pense que je me redirigerai peut-être vers une profession qui serait peut-être totalement différente, mais c'est pas ça qui manquait justement de profiter de mon service civique et essayer d'apprendre un maximum de choses.
Pour moi, je sais pas encore. Je sais que le social, c'était quelque chose que je voulais tester. Ça me plaît. Après, je sais pas, il est encore tôt dans la mission pour savoir si je veux en faire mon métier ou pas, mais il y a des chances, oui.
Moi, ça confirme mon envie de travailler dans le secteur du médico-social, donc je suis très contente.
Donc ça donne des vocations.
Ouais, complètement.
J'avais une question par rapport au Covid. Est-ce qu'il y a un impact en ce moment sur vos missions ?
Oh bah oui, malheureusement, oui, on rencontre beaucoup de personnes. Notamment, on intervient dans des structures très souvent. Donc déjà, la moitié des structures sont fermées. Donc du coup, on ne peut plus venir y travailler. Et certaines personnes ont soit peur du Covid, soit n'ont pas le choix. Et du coup, il y a beaucoup de bénéficiaires qui ont annulé aussi. Donc oui, forcément, ça a un impact.
Oui, c'est exactement ça. En fait, même par rapport aux activités que l'on veut proposer à nos deux bénéficiaires, on est extrêmement limité. Mais par exemple, juste faire de la cuisine, on ne peut pas forcément se le permettre tout le temps. Si on veut se balader, on est limité dans le temps. Au-delà de ça, comme l'a dit Adélie, on devait être dans des structures également, où par collection d'été, on devait être avec plusieurs personnes en situation de handicap en même temps. Et la moitié des structures sont fermées, qui nous empêchent de faire la moitié de notre travail. Et on le ressent au quotidien, en fait, dans notre travail, que le Covid, il est là et que malheureusement, on est obligé de s'adapter.
Ouais, on le ressent par rapport, je dirais plus à ce qu'on veut proposer. On réfléchit, on se dit, ah, on peut faire ça. Et puis au final, on se dit, bah non, on peut pas, c'est vrai qu'il y a le Covid. Puis même au quotidien, pour certaines personnes, c'est quand même, quand on se regarde et qu'on voit le masque, on devine le sourire des personnes, mais c'est pas pareil quand même. Pour le contact, je trouve que c'est important aussi qu'on ait du contact humain, quoi.
Moi, j'ai rien à ajouter, tout est dit.
En tout cas, vivement la fin du Covid. On est d'accord là-dessus ?
Exactement, on attend que ça.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes qui hésiteraient à postuler pour une mission de service civique ?
Bonne idée. Allez-y,
ça fait. Faut pas hésiter, franchement.
C'est une meilleure expérience qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie.
Ouais.
C'est tout, c'est-à-dire qu'on crée des liens d'amitié, on a de l'expérience qu'on n'aurait peut-être jamais eue avant.
Ouais.
Et il y a une ambiance tellement extraordinaire que moi je conseille à tout le monde d'au moins essayer une année.
C'est ça. Parce que ce que je voulais dire en plus, c'est qu'on appréhende parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça se passait. Surtout que le mot service civique, il fait un peu peur, je trouve. On ne sait pas trop ce qu'on y trouve à l'intérieur, mais quand on y est, quand on a passé le premier jour, on se rend compte qu'on est content d'être là et qu'on ne regrette pas. Il faut juste oser faire le pas.
Ouais, il faut y aller. Vraiment, c'est une bonne expérience. C'est quelque chose qu'on peut faire qu'une seule fois. Et personnellement, on regrette pas. Et je pense pas qu'on puisse regretter ça. C'est que du bénéfice, quoi. C'est une expérience. On découvre quelque chose qui peut être soit en lien avec ce qu'on aime ou même une envie qu'on a envie de faire sur le moment. Et vraiment, ouais, il faut y aller, quoi. Faut oser. Voilà.
Et ben, j'espère que ça donnera envie à beaucoup de jeunes de tenter l'expérience.
Ouais,
on espère aussi. Ouais.
Est-ce que vous avez quelques mots pour conclure ? Peut-être que j'ai oublié quelques thématiques que vous vouliez aborder.
Tous ceux qui ont envie, qui se posent la question de faire un service civique, c'est pas grave. Même si vous faites pas ça plus tard dans votre vie, on s'en fiche. Enfin, l'important, c'est d'avoir essayé et puis c'est génial.
Ouais.
C'est super bien.
C'est une aventure et il faut la vie.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup à Damien, Clémentine, Joël et Adélie d'être venus nous parler d'unicité et du service civique. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller aussi sur le site www.unicité.fr et aussi sur le site service civique, donc www.service-civique.gouv.fr. Petite pause musicale avec le titre ERA de Giorgio.
Cigarette dans la main gauche, volant dans la main droite. La fenêtre ouverte et le chauffage à fond. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Prendre juste un sac et pas de bagages en soute. Aujourd'hui j'ai les idées claires, je me cache, je laisse pas l'âme dans le flou. Une fois la tour Eiffel derrière moi, j'avoue, j'ai commencé à douter de Paris, on se retrouvera sans doute. Personne n'a pris ma foi, alors je brise les codes à vive allure, je pisse droit. Mes voyages jamais soumis à vos dictatures. Mes nuages sont indolores depuis que je sais où je vais. Puisque la vie vaut de l'or, expliquez-moi le sang dans les CJD. J'ai l'impression que là où je respire, d'autres meurent étouffés. J'ignore où se trouve le cimetière de la jeunesse et miroir. Excuse-toi de me créer des chaînes, je suis pas rancunier.
Hera, sa cigarette diffuse et on part en fumée. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais voir tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais voir tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. À l'aube d'une nuit endiablée par l'ivresse, je joins mes potes qui sortent de boîte, la gueule de bois. Et dans les premiers bus, tout le monde leur marque. On est différents, on parle fort, un bien méchant. Allez, t'as fait plus jamais, j'ai de l'empathie pour les gens qui ont pas eu le courage ou le choix que de se lever toute leur vie pour pas grand chose. L'éducation, l'ouverture d'esprit rend nos parents pauvres. Il faut le comprendre et je crois que seul le temps nous le permet. On perd le nôtre sur internet, des trous dans la cervelle. Faire semblant d'avoir pas peur la diminue. On fait tous pareil, puisqu'on doute toute l'année. Mon sourire ferait croire que je souffre à peine, alors que j'étais condamné à me planter les intestins. Hera, y a sa joie de vivre et on court après le train. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais voir tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais voir tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Tu peux te noyer dans le verre des yeux ou le verre marécage de l'absinthe. T'as le droit de garder le silence, qu'on soit deux ou qu'on soit cinq. Moi j'ai choisi de partir dès que je pouvais avant tout stop, rien à foutre d'être martyr. Je marche en équilibre sur un rooftop. Et je donnerai le meilleur de ma confiance quand on s'endormira. Pou contre pou, les voyages, le contre-coup. J'emmerde les peut-être des histoires, y'en aura d'autres encore. Et Ra, ses crânes près de la fenêtre et l'avion s'envole.
Radio G dans l'émission Génération. Bonjour Madame Côte-Rivry.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et responsable consultation jeunes consommateurs à l'Association Libérienne d'Addictologie. Dans les CJC, donc les consultations jeunes consommateurs, vous accueillez les adolescents et les jeunes adultes qui veulent faire le point sur leur consommation de tabac, d'alcool, de cannabis et sur les usages de jeux vidéo par exemple. Vous accueillez aussi les parents des ados et des jeunes, et ça c'est pour quelle raison ?
Oui, c'est ça. On accueille les ados et les jeunes jusqu'à 25 ans, mais on accueille aussi leurs parents, ou ce qu'on appelle aussi, nous, leur entourage. Alors, entourage, pour nous, ça veut dire les parents, mais pas que. Ça peut être les frères et sœurs, les grands-parents, les amis aussi, hein, bien entendu. En fait, ce sont tous les proches avec qui le jeune souhaite venir nous rencontrer. Donc, c'est vraiment lui qui décide. Si pour lui, c'est important ou plus facile de venir avec sa petite amie, par exemple, bah, pas de problème, on va le recevoir ensemble avec sa petite amie. Puis il y a aussi, bien sûr, le cas de figure où le jeune, lui, il n'est pas d'accord de venir nous rencontrer avec quelqu'un. Mais si ses parents s'inquiètent, sont eux inquiets, s'ils se posent des questions parce qu'ils sentent qu'il y a un souci, et même parfois parce qu'ils n'arrivent plus du tout à discuter sans être tout de suite dans le conflit, là, on peut les recevoir. Alors, dans cette situation-là, ces parents-là qui nous contactent, on va les recevoir, eux, même si le jeune, lui, n'est pas prêt à venir. Hein, bien sûr, on va chercher avec ses parents à comprendre ce qui se passe et en quoi ils sont en difficulté.
Donc, ce n'est pas obligé de venir tous ensemble, jeunes et parents ?
Ah non, 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 bien sûr. En fait, chacun est libre. Nous, on va chercher à respecter les souhaits de chacun. Donc, il n'y a rien d'obligatoire. Et d'ailleurs, un ado, même s'il est mineur, il peut tout à fait venir nous rencontrer sans l'autorisation de ses parents. Et très souvent, quand des parents appellent pour prendre rendez-vous pour leur jeune, mais qu'on comprend que le jeune, lui, il n'est pas vraiment d'accord pour venir, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer aux parents de les voir eux d'abord, eux seuls d'abord, pour parler de ça, d'ailleurs, le fait que ce soit difficile de venir ensemble, pour parler de ce qui ne va pas en ce moment avec leur jeune. Donc, voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe.
Et est-ce que ce ne sont pas les parents, parfois, qui s'inquiètent souvent de trop? Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que fumer du cannabis ou boire de l'alcool, c'est assez banal, en fait, quand on est jeune?
Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. Parfois, c'est vrai, ils s'inquiètent de trop. Et puis, bah, du coup, notre rôle, ça va être de chercher à les aider à repérer ce en quoi ils ont peut-être quand même raison de s'inquiéter, mais ce aussi pourquoi, peut-être, bah, il faut un petit peu voilà, se prendre du recul, bon, se détendre, hein, et voir les choses un peu différemment. Parfois, en fait, ils s'inquiètent parce que leurs jeunes fument du cannabis, par exemple, et ils ont tendance à focaliser là-dessus, en voulant à tout prix que le jeune arrête cette consommation-là. Et puis, bah, quand on prend un peu de recul avec eux, on s'aperçoit qu'il y a autre chose, en fait, qui peut-être va pas si bien que ça dans la vie du jeune. Par exemple, ce jeune-là, il est démotivé par la formation dans laquelle il est, ou il ne se sent pas bien dans son lycée, ou parce qu'il y a des conflits, des disputes à la maison aussi avec les parents à cause des sorties, à cause de l'argent. Donc peut-être c'est d'abord de ça dont il faut s'occuper en premier, même si c'est compliqué de parler de tout ça, parce que ça crispe, quoi, parce que ça crée des conflits. C'est important de parler de ça, même parfois avant de parler de la consommation de cannabis. Donc en fait, on réfléchit avec les parents à la façon dont ils peuvent faire autrement pour parler mais de ce qui ne va pas, pour parler vraiment de ce qui ne va pas.
Est-ce que ça change vraiment les choses quand les parents viennent vous voir, en fait?
Ah ben, c'est pas magique non plus, mais oui, ça fait évoluer les choses. Alors déjà, le fait d'avoir exprimé ses ressentis, ses émotions, ses inquiétudes, et puis aussi d'avoir été vraiment écouté, en général, ça soulage. Ça fait du bien déjà, ça. Et puis aussi, le fait de commencer à essayer de comprendre ce qui se passe pour son jeune. Ça aide à moins se focaliser, à voir les choses à partir d'un autre point de vue, et puis souvent aussi à se sentir de nouveau capable en tant que parent à reprendre confiance aussi en soi. Et c'est important pour les parents. Nous, ce qu'on voit, c'est que ça fait évoluer les relations de ces parents-là avec leurs jeunes. Ça s'apaise, il y a moins de conflits à la maison, et puis petit à petit, du coup, chacun arrive à dire vraiment les choses dont il a besoin de parler, et aussi arrive à s'écouter. Ça, c'est le principal. On peut avoir plein de désaccords, mais en tout cas, en général, tout le monde, jeunes et parents, a plutôt intérêt à ce que le climat s'améliore, quoi. Donc ça peut être un objectif commun. On peut être en désaccord, mais avoir quand même en commun le fait d'avoir envie que ça se calme, en fait. Et, bon, l'image, elle n'est pas terrible, mais c'est un petit peu comme pour la planète, hein. Quand ça chauffe de trop, tout le monde y perd et ça devient compliqué.
C'est vrai. Mais pourquoi c'est si compliqué que ça avec les parents quand on est ado ou jeune? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à parler à ses parents et parfois même on en arrive à les détester?
Oui, c'est vrai. C'est pas simple. C'est pas simple à certaines périodes de la vie. Et à l'adolescence, y a tellement de choses qui changent très vite qu'on est parfois plus du tout en phase les uns avec les autres. On ne se comprend plus du tout. On s'engueule. On n'a plus vraiment de plaisir à être ensemble. Les jeunes peuvent ressentir ça, mais les parents aussi, hein. Et c'est dur à vivre parce qu'en même temps, on est aussi très attachés les uns aux autres. On éprouve de l'affection. Et puis, pour autant, bizarrement, on ne se supporte plus. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver à se détacher, à prendre son autonomie, à ne plus avoir besoin de ses parents pour faire des choses, pour décider, pour faire des choix, et en même temps, garder quand même un lien, un attachement, une relation, vivre ensemble, se comprendre suffisamment. C'est tout l'apprentissage qu'on fait quand on est adolescent en général. Donc c'est pas simple pour les ados, pour les jeunes, mais c'est pas simple non plus pour les parents. Parce que chacun dans cette histoire fait un gros travail de changement. Les jeunes, les ados, mais les parents aussi. Et notre objectif à nous, c'est juste d'aider les parents à accepter que pour eux aussi, il y a des changements à vivre.
Et si je vous suis bien, on peut se dire qu'un jeune qui sent que ça ne va plus avec ses parents, il peut le dire directement au CJC, pendant une CJC.
Oui, voilà. Pourquoi pas? C'est vrai. Et c'est vrai que souvent, ce sont les parents qui appellent en premier. Enfin, plus l'ado est jeune, plus ce sont les parents qui appellent en premier, qui prennent l'initiative. Mais ça arrive qu'on rencontre un jeune et qu'on réfléchisse avec lui à la meilleure manière de faire aussi venir ses parents, parce qu'on sent qu'il faut vraiment les soutenir eux aussi pour que les liens se retissent, s'apaisent, pour que les choses puissent se parler. Donc à la CJC, les jeunes, ils peuvent tout à fait venir seuls, hein, et comme je l'ai dit, sans l'autorisation de leurs parents, mais ils peuvent aussi amener leurs parents, bien sûr, s'ils sentent que ça pourrait faire du bien à tout le monde.
Et quand on parle d'entourage, c'est surtout les parents, la famille ou les amis?
Oui. On peut parler aussi des autres adultes, hein, qui ne sont pas forcément de la famille. Par exemple, si une infirmière scolaire ou un éducateur nous contacte au sujet d'un jeune qui l'accompagne, qu'il connaît bien, qui l'accompagne, là aussi, on va lui proposer de le rencontrer pour essayer de comprendre ce qui l'inquiète, hein, ce qui inquiète cette infirmière scolaire, ce qui inquiète cet éducateur, et comment on peut aussi nous l'aider à continuer à accompagner ce jeune en tenant compte voilà, des difficultés là, qu'il rencontre.
Et en pratique, on fait comment ?
Alors en pratique, bah, le mieux, c'est quand même de nous contacter, de nous appeler, hein, voilà, par téléphone, c'est plus simple, surtout en ce moment, pour prendre un rendez-vous et venir, soit tout seul, hein, c'est le choix vraiment de chacun, soit avec ses parents, ou avec un ami, ou quelqu'un en qui on a confiance, ou un autre adulte, peu importe, c'est vraiment un choix qui est tout à fait libre. On a des temps d'accueil sans rendez-vous, où on peut venir sans avoir pris de rendez-vous, le mercredi. Mais là, en ce moment, avec la crise sanitaire, cet accueil-là, on ne peut pas l'assurer. Donc, actuellement, c'est préférable d'appeler, en fait, de nous contacter par téléphone au 02 41 47 47 00. Et nous, de toute façon, ensuite, soit on vous rappelle pour avoir un petit échange par téléphone, ou bien il y a un créneau de rendez-vous qui peut être posé tout de suite et on vous rencontre. Voilà, on rencontre le jeune, les parents, au choix de chacun.
Est-ce que vous avez quelques mots pour conclure ?
Et écoutez, voilà, je trouve que c'est une belle opportunité de pouvoir présenter ce dispositif-là dans le cadre de cette émission, Génération. Donc, si ça permet aux jeunes et aux parents aussi, aux familles, de connaître l'existence de ces structures, c'est intéressant, parce qu'elles ne sont pas toujours bien connues, alors que ce sont des lieux c'est dans vrai. Lesquels on peut venir de manière très libre, c'est gratuit. C'est confidentiel, bien sûr, aussi.
Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Madame Cotrivry. C'était un plaisir de vous recevoir dans l'émission Génération.
Ben, merci, bonne suite à vous.
Merci beaucoup. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site alia49.fr. On se refait une très très courte pause musicale avec le morceau Chérie FM de Erwan sur l'album Radio Cortex.
Le bain de nuit, c'est mou, et les nouilles s'accolent au fond. On ne peut pas les beurrer, les cornflakes, ça ramollit dans le lait. Le pain de nuit, c'est mou, c'est mincé, et les cols roulés en laine, ça gratte dans le cou, l'oignon ça pique les yeux. J'aimerais mieux être mieux pour pouvoir m'améliorer, mais on n'a pas le droit. Pourquoi?
Pour la dernière rubrique, voici une interview de Marie Rodriguez qui nous parlera de la mission locale angevine. Une interview qui avait été réalisée par notre collègue Kelly.
Bonjour, donc Marie Rodriguez, je suis adjointe de direction à la mission locale angevine, en charge de différents dispositifs d'accompagnement de jeunes 16-25 ans qui ne sont pas scolarisés.
Donc la mission locale l'année dernière était déjà partenaire de Génération, cette année c'est parti pour une nouvelle saison. Est-ce que tu pourrais me dire dans les grandes lignes, c'est quoi la mission locale pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ?
Donc la mission locale, c'est le premier réseau d'accompagnement des jeunes 16-25 ans qui ne sont pas scolarisés. Donc on a une mission de service public, tout comme Pôle emploi. Notre spécificité en fait, c'est qu'on accompagne les jeunes dans des définitions de projets professionnels, recherche de formation, recherche d'emploi, mais tout en s'intéressant à toutes les problématiques qui peuvent toucher les jeunes en fait. Ils ont des questions autour de la mobilité, du logement, de la santé, de la justice. On est là aussi pour prendre en compte en fait ces questions-là et faire le lien avec les différents partenaires qui peuvent leur apporter les réponses plus techniques, puisqu'on n'est pas des spécialistes en fait sur tout ce qui touche la jeunesse.
Au niveau des partenaires, vous travaillez avec qui ?
Alors c'est très très large, ça peut être donc un partenariat avec les centres de formation, un partenariat avec pas mal d'entreprises, puisqu'aussi on a un travail en proximité avec les entreprises pour pouvoir leur faciliter des recrutements, présenter des candidats, faciliter aussi l'intégration des jeunes dans l'entreprise. Donc on est là aussi pour accompagner les jeunes quand ils commencent un contrat et faire le lien avec l'entreprise, donc partenariat centre de formation, entreprise, les foyers jeunes travailleurs, tous les services qui peuvent s'intéresser aux questions de la santé en fonction par exemple plutôt des problématiques d'addiction, besoin de faire un bilan de santé, besoin d'avoir accès à des soins, que ce soit médicaux, que ce soit dentaires. On intervient aussi en partenariat.
La vie quotidienne finalement.
Toute la vie quotidienne en fait, et vraiment on est là pour répondre à toutes les questions ou mettre en lien avec les partenaires qui pourront apporter les réponses.
Et l'accompagnement vers l'emploi et la formation, ça se traduit par des rendez-vous individuels, comment ça se passe concrètement?
Alors il y a différents niveaux en fait, des jeunes viennent nous voir juste parce qu'ils ont une question très ponctuelle, donc on apporte une réponse. Après, s'ils veulent qu'on se voit de manière plus régulière, on va rentrer dans des dispositifs d'accompagnement, certains qui sont financés par l'État, qui peuvent ouvrir droit à une allocation qui peut permettre de sécuriser aussi au niveau de l'accès à un logement, les questions de mobilité, donc ça sécurise financièrement les parcours. Et puis, il peut y avoir différents types de partenaires qui peuvent intervenir aussi. On a un réseau de parrains qui sont des personnes qui sont en entreprise, qui peuvent venir pour donner des conseils pour tout ce qui est technique de recherche d'emploi, préparer des simulations, entretiens. Donc, c'est un ensemble de réseaux de partenaires, en fait, qui vont intervenir en fonction des besoins des jeunes. On a une psychologue qui intervient aussi sur un site. Donc là, c'est un service qui est libre. Les jeunes peuvent prendre rendez-vous directement. Donc, elle reçoit des jeunes, elle les accompagne aussi dans l'idée de passer le relais derrière. Elle ne fait pas tous les accompagnements, mais à un moment donné, dans un parcours, il peut y avoir une difficulté. Donc en tout cas, il peut y avoir des personnes qui peuvent répondre et échanger autour de ces difficultés.
Et question pratique, où est-ce que la mission locale angevine se situe?
Alors, notre approche, en fait, c'est d'intervenir au plus près des jeunes. Donc la mission locale, c'est 31 lieux d'implantation sur le territoire. Donc en général, dans tous les quartiers d'Angers, donc on a une antenne. Sur les grandes communes de l'agglo d'Angers, on a une antenne. Et puis en parallèle de cet accueil de proximité, on a un site qui se situe rue Baudrière, en bas des marches, qui est accessible du lundi au vendredi, sauf le jeudi matin, où là il y a des charges d'accueil, il y a des espaces multimédia qui sont accessibles en fait, et il y a toujours des professionnels qui sont là pour guider sur l'utilisation de différentes ressources.
Et il y a un changement de lieu, il me semble, à la Roseraie.
Alors, on a un changement de lieu, effectivement, à la Roseraie. Donc, l'antenne de la Roseraie va intégrer l'ancien FJT, donc, qui s'appelle maintenant l'espace Frédéric Mistral, aux 4 rues des Baladins, donc juste à côté, en fait, du centre Jean Villard. Donc, l'ouverture au public va se faire à partir du 23 septembre. Donc là, c'est une antenne qui va être plus dimensionnée par rapport au nombre de jeunes que l'on accueille, puisque l'antenne actuelle était quand même trop, trop petite.
C'est déjà la fin de Génération. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Vous pouvez retrouver toute l'émission en podcast sur le site radio-g.fr. Je vous souhaite donc une très bonne après-midi sur les ondes de Radio G 101.5 FM.
Form a covers band and all. Stop. there by the baby grand? Did Mr. Winter Wonderland say, come here, kid, we really need to talk? Bear with me, man, I lost my train of thought. I fantasize, I call it quits. I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom felt a bit. The shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. Just as the apocalypse finally gets prioritized, and you cry to my foot, hottest tears you ever cry, multiplied by five. I suppose a singer must die. Around the money tree, this stunning documentary that no one else unfortunately saw. Such beautiful photography, it's worth it for the opening scene. I've been driving round listening to the score. Maybe I just imagined it all. I've played to quiet rooms like this before. Bear with me, man, I lost my train of thought.